Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourois. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le bruit et la fureur de William Faulkner. Le bruit et la fureur, en 1929, se déroule à Jefferson, chef-lieu du Yonapatapha, le comté imaginaire du Mississippi où William Faulkner, 1897-1962, a situé l'action de la plupart de ses romans. Il met en scène les Comsom, une de ces familles d'anciens planteurs qui ont dominé la société du Sud des États-Unis jusqu'à la guerre de Sécession, avant de céder la place à une nouvelle classe de propriétaires terriens et de marchands dans le Nouveau Sud des années 1920. En effet, l'histoire de la famille Comsom est ici racontée successivement par quatre narrateurs. Un idiot de 33 ans, Benji Comsom, son frère, Quentin Comsom, qui s'est suicidé 18 ans plus tôt, un autre frère, Jason Comsom, et enfin un narrateur extérieur à l'histoire. On lit dans Shakespeare, dans Macbeth, à la scène 5 de l'acte 5, cette définition. La vie, c'est une histoire contée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien. La première partie du roman de William Faulkner est, elle aussi, contée par un idiot. Le livre entier vibre de bruit et de fureur et semblera dénué de signification à ceux qui estiment que l'homme de lettres, chaque fois qu'il prend la plume, doit apporter un message ou servir quelque noble cause. Faulkner se contente d'ouvrir les portes de l'enfer. Le drame se déroule dans l'état de Mississippi, entre les membres d'une de ces vieilles familles du Sud, hautaines et prospères autrefois, aujourd'hui tombées dans la misère. Trois générations s'y déchirent. Cady, volontaire et sensuelle, a pris un amant, Dalton Himes. Le jour où elle se voit enceinte, elle accompagne sa mère à French Lick, une station thermale dans l'état d'Indiana, pour y trouver un mari. Le 25 avril 1910, elle épouse Sidney Herbert Head. Quentin, qu'un attachement incestueux, encore que platonique, lie morbidement à sa sœur, se suicide de jalousie le 2 juin 1910 à l'université d'Harvard où il était allé faire ses études. Un an plus tard, Cady, chassée par son mari, abandonne à ses parents la petite fille qu'elle vient de mettre au monde. Et, qu'en souvenir de son frère, elle a appelé Quentin. C'est ensuite la mort du père qui sombre dans l'alcoolisme, laissant sa femme ruinée avec leurs deux fils survivants, Jason et Benjamin, et le bébé que Cady n'a même plus la permission de voir. Jason est un monstre de fourberie et de sadisme, Benjamin est idiot. Un jour, s'étant échappé du jardin, il a tenté de violer une fillette. Depuis lors, inoffensif, il erre comme une bête et ne s'exprime que par des cris. Quentin, la fille de Cady, a grandi. Au moment où commence « The Sound and the Fury », elle a 17 ans. Et comme autrefois sa mère, elle se donne déjà aux jeunes gens de la ville. Son oncle Jason la poursuit de sa haine et c'est là vraiment tout le sujet du livre. William Faulkner, né William Cuthbert Faulkner, est né le 25 septembre 1897 à New Albany, dans l'État du Mississippi. Il est issu d'une famille d'hommes d'affaires et d'hommes de loi, d'anciens riches déchus, ruinés par la guerre de Sécession de 1865. Son œuvre est peuplée de déracinés, et même mue par eux. Il est influencé par la vie des États du Sud américains, et notamment par celle de son État natal, qui marque son sens du tragique, en raison de la ségrégation raciale entre les blancs et les noirs de l'époque. Il prend le nom de Faulkner pour se singulariser principalement vis-à-vis de son père qui l'aimait guère. Ce fut aussi pour lui une façon de s'affirmer comme écrivain. Il s'engage dans l'aviation canadienne durant la Première Guerre mondiale, mais l'armistice de 1918 est signé avant qu'il n'ait pu faire son premier vol. Affabulateur, alcoolique, Faulkner est successivement vendeur en librairie, postier, mais passe l'essentiel de son temps à écrire et lire. Parmi ses auteurs favoris, on trouve Herman Melville et Honoré de Balzac. Il s'installe à Oxford, dans le Mississippi, après son mariage, le 20 juin 1929, avec Estelle Holden Franklin, 1897-1972, qu'il connaît depuis 1907. Le couple donne naissance à une fille, Jill, mais le mariage avec Estelle est un désastre. Les époux sont alcooliques. Estelle fait une cure de désintoxication par la suite. Dans les années 1940 et 1950, William Faulkner multiplie les liaisons avec de jeunes femmes. En 1925, il publie son premier roman, Monnaie de singe. Faulkner visite ensuite l'Europe, s'arrête en Italie du Nord et à Paris. Il commence une tournée des champs de bataille français, Rouen, Amiens, Compiègne, Dieppe. Alors qu'il n'arrive toujours pas à vivre de sa plume, il continue d'alterner petits travaux et écritures, publiant 4 de ses romans majeurs, Le bruit et la fureur, Tandis que j'agonise, Sanctuaire, Lumière d'août, en seulement 4 ans, de 1929 à 1932. Vers 1932-1937, Faulkner commence une longue série d'allers-retours entre Oxford en Mississippi et Hollywood, où il devient scénariste. Lorsque les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, Faulkner s'engage dans la défense passive. Il retourne alors à Hollywood, toujours pour l'argent. Il reçoit en 1950 le prix Nobel de littérature de l'année 1949, 5 ans avant Ernest Hemingway. Faulkner, qui a situé la plupart de ses récits dans son état natal du Mississippi, est l'un des écrivains du Sud les plus marquants, aux côtés de Mark Twain, Robert Penn Warren, Flannery O'Connor, Truman Capote, Tennessee Williams et Carson McCullers. Au-delà de cette appartenance à la culture sudiste, il est considéré comme un des plus grands écrivains américains de tous les temps et un écrivain majeur du XXe siècle, qui a exercé une grande influence sur les générations suivantes. En France, il a été découvert et commenté par André Malraux, Jean-Paul Sartre et bien d'autres écrivains. Son alcoolisme est source de nombreuses hospitalisations. Faulkner meurt dans la nuit du 5 au 6 juillet 1962, après une dernière chute de cheval. Il choisit pour épitaphe, il fit des livres et il mourut, s'effaçant ainsi devant son œuvre. William Faulkner, 65 ans, avait vécu. Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. Nous travaillons tous dans des toiles tissées bien avant notre naissance, des toiles d'hérédité, d'environnement, de désirs et de conséquences, d'histoire et d'éternité. Quand l'ombre de la croisée apparaissait sur les rideaux, il était entre 7h et 8h du matin. Je me retrouvais alors dans le temps et j'entendais la montre. C'était la montre de grand-père et en me la donnant, mon père m'avait dit « Quentin, je te donne le mausolée de tout espoir et de tout désir. Il est plus que douloureusement probable que tu l'emploieras pour obtenir le reducto absurdum de toute expérience humaine, et tes besoins ne s'en trouveront pas plus satisfaits que ne le furent les siens ou ceux de son père. Je te le donne, non pas pour que tu te rappelles le temps, mais pour que tu puisses l'oublier parfois un instant, pour éviter que tu ne t'essouffles en essayant de le conquérir. Parce que, dit-il, les batailles ne se gagnent jamais. On les livre même pas. Le champ de bataille ne fait que révéler à l'homme sa folie et son désespoir, et la victoire n'est jamais que l'illusion des philosophes et des sots. Elle était appuyée contre la boîte à faux cols, Couché, je l'écoutais. Je l'entendais plutôt. Je ne crois pas que personne n'écoute jamais délibérément une montre ou une pendule. Ce n'est pas nécessaire. On peut en oublier le bruit pendant très longtemps, et il ne faut qu'une seconde pour que le tic-tac reproduise intégralement dans votre esprit le long décrescendo de temps que vous n'avez pas entendu. Comme disait papa, dans la solitude des grands rayons lumineux, on pourrait voir Jésus marcher, pour ainsi dire. Et le bon saint François qui disait « Ma petite sœur la mort », lui qui n'avait jamais eu de sœur. Le jour se levait, triste et froid. Mur mouvant de lumière grise qui sortait du nord-est et semblait, au lieu de se fondre en vapeur humide, se désagréger en atomes ténus et vénéreux, comme de la poussière, précipitant moins une humidité qu'une substance voisine de l'huile légère, incomplètement congelée. Quand Disley, ayant ouvert la porte de sa case, apparut sur le seuil, elle eut l'impression que des aiguilles lui transperçaient la chair latéralement. Elle portait un chapeau de paille noire, perché sur son madras et sur une robe de soie violette, une cape en velours de lit de vin, bordée d'une fourrure anonyme et pelée. Elle resta un moment sur le seuil, son visage creux, insondable, levé vers le temps, et une main décharnée, plate et flasque comme un ventre de poisson. Puis elle s'écarta sa cape et examina son corsage. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.